On embrasse la gaverie, mais on embrasse aussi nos deux invités qui nous ont rejoints dans le camion de la Mystery Machine pour commencer cette émission à survivre. Olivier Faudet, tu es responsable des chemins pédestres, équestres, VTT et cyclo. Est-ce que c'est bien ça?
Exactement. Bonsoir à tous.
Comment ça va?
Bah, très bien. Je reprends aujourd'hui de mes vacances. Donc.
Ah oui, donc on te prend un petit peu sur le tas. Et avec nous, on a également Mathieu Balusson. Tu es guide conférencier sur le patrimoine de Vire. Comment ça va?
Bonsoir. Tout à fait ça.
Exactement. Ça va bien?
Ça va impeccable. Je ressors de visite guidée.
Tu ressors de visite guidée. Et bah, justement, j'aimerais savoir, par où on passe lorsqu'on veut découvrir Vire et que l'on est un touriste seulement là pour une journée?
Là, on commence à l'office de tourisme, c'est le mieux. On se présente à l'accueil. Et ensuite, ça dépend des thèmes. Et globalement, le mardi matin, par exemple, on fait une visite guidée des classiques de Vire. On va appeler ça les classiques de Vire. Et on visite, par exemple, la porte horloge qui date du XIIIe siècle. On parle aussi de la reconstruction, parce que c'est une ville qui a été reconstruite dans les années 1950. Voilà. On visite également le musée. Donc, qui est à côté de l'écluse.
Donc en fait, toutes ces quand tu dis une visite, ça passe vraiment aussi par des lieux où on rentre vraiment dans les lieux.
Oui, tout à fait. Oui. Alors le musée, c'est un accès payant, donc
oui, okay.
On passe devant, mais c'est un ancien hôtel-dieu, donc ça a fonctionné pendant plusieurs siècles, où on a accueilli des malades. Donc on passe devant, on fait une explication, et puis après on propose aux gens, après la visite, d'aller visiter par eux-mêmes.
Mais tu l'as dit, Vire, ça a été une ville qui a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Comment ils sont en fait les bâtiments récents, du coup reconstruits après la guerre, et est-ce qu'il reste quelques vestiges de la ville d'avant-guerre?
Alors il reste beaucoup de choses.
Ça va alors.
Non, il reste quand même pas mal de choses. Beaucoup de gens pensent justement qu'à Vire, il ne reste plus rien. Il reste beaucoup de vestiges médiévaux. On a parlé de l'hôtel Dieu, ça date du XVIIIe siècle. Donc il reste beaucoup de choses qui n'ont pas été détruites par la guerre et qui ont été très très bien restaurées.
On évalue à peu près combien de pourcentage les destructions pendant la guerre? C'est pas 95? Je crois que j'ai vu ce chiffre, c'est quand même assez énorme.
Non, ça, c'est moins que ça.
Ok, d'accord.
Même le pourcentage est encore discuté aujourd'hui. Même pour la ville de Caen, hein, ça a été réévalué. Ça avait été surévalué d'ailleurs, donc il y a même un historien qui avait un petit peu baissé le pourcentage. On va tourner autour de 80.
D'accord. Voilà. Ça reste l'une des villes quand même dans le Calvados.
Ah oui,
plus touché.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, cette balade, elle dure combien de temps pour visiter un petit peu tout ce patrimoine historique de Vire?
Une visite classique, on est sur à peu près 1h30.
1h30.
Voilà.
Et toi, du coup, tu fais combien de visites par jour?
Alors là, l'été, on fait 3 visites par semaine.
Ah oui.
Voilà. On fait 3 visites par semaine et on n'est pas uniquement sur Vire, hein. On fait également les alentours, puisque nous à l'office de tourisme on a un territoire qui est très large, hein. ça va jusqu'à Condé-sur-Noireau, Villers-Bocage, donc on fait pas uniquement Vire.
Et c'est quoi la question ou alors la remarque la plus récurrente chez les visiteurs de Vire? Peut-être qu'est-ce qui les choque le plus?
Alors les gens, parce qu'on a beaucoup de locaux qui viennent visiter quand même, mais ceux qui sont pas de la région sont surpris justement de voir des vestiges. Voilà, des vestiges médiévaux ou même de périodes plus récentes. Ils pensaient que tout avait été effacé. Alors, c'est pas du tout le cas. il reste beaucoup de bâtiments. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il y a d'incontournable comme lieu en dehors de Vire? Donc vous dites, vous allez jusqu'à Villers, Condé, est-ce qu'il y a des lieux justement
Alors nous, à l'office de tourisme, on propose des visites sur la reconstruction des villages.
Ah oui, d'accord.
Voilà, parce que en fait, ils ont aussi été, pour certains, vraiment rasés. On prend le cas d'Aunay-sur-Odon, il restait plus rien.
Un tas de ruines.
Voilà, il restait le clocher, et le clocher, ils ont fini par le dynamiter, parce que la reconstruction, c'était trop dangereux. Aunay-sur-Odon, on est sur du quasiment 100%. Donc on a des visites spéciales reconstruction, on détaille l'architecture et comment ça s'est passé dans les années 50-60.
Et ben justement, on voit par exemple des bâtiments, on se demandait notamment ce midi, lesquels étaient reconstruits, lesquels étaient d'époque. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ces bâtiments-là?
Alors, par exemple, vraiment, là, entre les vestiges ont été mis en valeur.
D'accord, ok. Voilà.
Donc en fait, il y a autour des vestiges, aujourd'hui, il y a de la place. Voilà. C'était pas le cas avant-guerre. Il y avait beaucoup de bâtiments autour. Pour le cas de la porte horloge, c'était une porte qu'on voyait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait des constructions tout autour. C'était un petit peu le fouillis.
Alors qu'aujourd'hui, elle est vraiment centrale.
Eh bien, à la reconstruction, ils ont décidé de pas construire autour pour la mettre en valeur. Voilà. Donc les monuments médiévaux, par exemple, on les voit très bien puisqu'ils sont mis en valeur. Voilà.
Oui, et puis le béton armé, ça date
d'après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Tout à fait, il y a l'utilisation d'un nouveau matériau qui est le béton.
Le béton armé.
Le béton armé.
Avec lesquels ils ont reconstruit du coup tous les nouveaux immeubles qu'on peut voir à Vire.
C'est ça. Alors c'est un peu piège parce que autour justement de la porte horloge, on a des bâtiments qui sont en granit avec de l'ardoise. Ça paraît très traditionnel, mais c'est de la reconstruction. Voilà. Mais c'est une reconstruction qui a été très lente et très coûteuse, donc on s'est dit début des années 50, on va passer à autre chose. Donc du coup là, on voit autour du camion, on a vraiment de la construction béton.
Parce qu'il fallait faire vite pour loger les gens qui n'avaient plus de maison.
Ça s'est fait en combien de temps à peu près, toute la reconstruction du coup
Le plan d'urbanisme, on commence en 45, la véritable reconstruction en 48. Et là, il va falloir une bonne dizaine d'années.
Ouais, dans les années 60, Vire était redebout, quelque part.
On va dire 1960, c'est terminé, à peu près.
Et donc, on peut se balader pour voir les reconstructions de toutes ces villes et villages, mais on peut aussi se randonner vraiment dans des lieux pédestres. Il y a la forêt qui est pas très loin. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais comme randonnée à faire, une première randonnée qui prend, allez, une journée?
Une première randonnée très simple, très familiale, c'est le tour du lac de la Tête d'Athée, parce que ça permet de montrer qu'on a des lacs sur notre territoire, parce qu'on a la forêt à proximité, pas très loin, et surtout, ça nous permet de montrer qu'on a un paysage très vallonné. Et en fait, on a beaucoup de gens, quand ils viennent sur Vire, ils ont cette impression de penser que la Normandie est plate, alors que pas du tout, c'est hyper vallonné. Voilà, on a eu le Tour de France qui est passé il y a quelques semaines, qui a vraiment montré que la Normandie n'est pas plate et que c'est même un avant-goût de la montagne en fait. Donc moi, mon job, c'est de montrer effectivement qu'on a des randonnées difficiles qui peuvent vraiment préparer la montagne, mais des randonnées très faciles aussi pour la famille.
Et donc il y a des randonnées pour la famille. Est-ce qu'il y a par exemple des routes de trail? Le trail en ce moment, c'est quand même hyper à la mode. Tout le monde veut se mettre au trail. En même temps, c'est génial. Est-ce que justement, toi qui parlais des montées, il y a des chemins de trail et même des courses qui sont organisées?
Oui, alors à partir du moment où on a des chemins, et c'est le cas sur notre territoire, on a beaucoup de chemins. Donc on s'en sert pour des circuits pédestres, donc des circuits de petites randonnées. On a des circuits VTT qui sont top. Et ceux et celles qui veulent faire du trail, mais bien sûr, ils utilisent les chemins. On n'a pas de circuit de trail à proprement dit, mais on peut faire du trail sans problème sur nos chemins. Et on a des organisations, des associations qui organisent des trails sur notre territoire.
Et tu viens d'en parler, et des circuits VTT, comment est-ce que vous avez fait pour créer ces chemins de VTT par rapport, il y a un sentier pédestre et vous êtes dit, ah là on pourrait faire un chemin de VTT, comment ça se passe?
En fait, il y a un cahier des charges à respecter parce que c'est un label, le label Fédération Française de Cyclisme. À partir du moment où on a une densité de chemins important, on peut créer, à partir du moment où on a un parking de départ, plusieurs chemins, donc on fait des circuits faciles, difficiles, très difficiles, un peu comme les pistes de ski, c'est la même chose, c'est la même cotation.
Ouais.
Donc oui, c'est technique, mais ça fait partie de mon
job. Le verbe rouge.
Donc je crois qu'on va pouvoir parler de la verdoyante, du coup, c'est un petit peu le...
Non, c'est pas moi qui dois en parler, mais je veux bien en parler. Mais...
Léo, tu spoil un petit peu.
Ouais, si je suis un petit peu trop en avance.
Ça va être le patron, normalement.
Ça devrait être le patron qui en parle. Non, mais c'est vrai, des circuits faciles, je vois à peu près peut-être à quoi ça ressemble, mais des circuits très difficiles, ça veut dire qu'il y a par exemple des sauts, une grosse montée.
Oui, alors circuit difficile, ça peut être des circuits qui sont très longs. On a par contre un circuit qui fait 25 km, donc là c'est vraiment la journée, donc on considère que c'est un circuit difficile par sa longueur, mais également par sa difficulté. On a le circuit des Gorges de la Vire, pas très loin de Sainte-Marie-le-Mont d'ailleurs. On a un circuit qui s'appelle les Gorges de la Vire, où voilà, clairement, il faut être chevronné pour pouvoir faire ces circuits-là, parce qu'il y a des petits sauts, des rochers à monter, des single tracks, comme on appelle ça. Donc voilà, ça fait partie de nos territoires.
Et est-ce qu'on peut louer par exemple un VTT ou un guide à la limite pour justement faire ces randonnées ou ces chemins de VTT?
Moi, voilà, je suis à votre disposition. Mais effectivement, on peut louer des vélos grâce à des partenaires qui sont existants sur notre territoire. Et voilà, on a un territoire de pêche également, on a un territoire très contrasté entre le granit au sud de Vire, au nord on va retrouver du calcaire, donc on a vraiment des paysages qui sont très variés, des circuits en forêt, on a parlé de la forêt de Saint-Sever tout à l'heure, donc voilà, c'est l'avantage de notre territoire, on a vraiment des paysages qui sont très très vallonnés et très diversifiés.
Vous êtes tous les deux, je pense, des randonneurs aguerris. C'est quoi la randonnée que vous préférez faire à Vire? Celle qui vous apporte peut-être le plus d'émotions. On va parler d'émotions.
Alors avec Olivier, on s'occupe du balisage principalement en automne et en hiver. Donc on a à peu près, je crois, presque 70 circuits à faire.
70 circuits?
Oui.
À baliser.
Sans compter le VTT, là c'est que du pédestre.
Ah oui, d'accord.
On s'occupe du balisage. Et c'est étonnant, mais c'est vrai que moi, c'est à Sainte-Marie-l'Aumont.
Encore, hein, ouais. Disons, j'ai de la chance.
Ouais, c'est une de mes randonnées.
La butte de Gromont.
La butte de Gromont.
Magnifique. Voilà. Ouais, ouais.
Alors, c'est un circuit où il y a un petit peu de goudron, parce qu'on a des circuits, Olivier pourra en parler un peu mieux que moi, mais à moins de 30% de goudron. Ouais. Où ce sont des circuits classés qualité par le département. Là, c'est pas un circuit classé qualité, il y a du goudron, mais les paysages sont magnifiques. Il y a les gorges de la Vire, en fin de compte.
Et ça permet d'arriver après sur Carville, le viaduc de la Souleuvre et des lieux aussi tout aussi magnifiques.
Ouais. Oui, parce que du coup, vu que c'est vallonné, il y a forcément des moments où on peut avoir un point de vue assez haut. Ouais. Et là. Avoir un beau paysage.
Ouais, c'est ça, jusqu'à 367 mètres, 365 mètres d'altitude sur notre territoire.
Mont-Pinçon.
Le Mont-Pinçon qui est le point culminant
où il y a l'antenne.
Et le Tour de France est passé cette année.
En oui, exact.
Et, en fait, vos deux domaines se rejoignent si on parle un peu de slow tourisme ou même d'itinérance culturelle. Comment vous arrivez à collaborer ensemble pour proposer une combinaison entre sentier nature, parcours sentier nature et une découverte du patrimoine culturel?
Ça se rejoint effectivement. C'est vrai qu'il y a la partie en fait étude des circuits avec les collectivités, parce que c'est pas nous qui créons les circuits, hein, c'est un partenariat avec les collectivités avec lesquelles on travaille. À partir du moment où les circuits sont créés, bah, effectivement c'est l'office de tourisme qui fait la promotion. Après, Mathieu va intervenir sur le volet plutôt guide patrimoine, donc on va se servir de nos circuits de randonnée pour mettre en avant et valoriser les bâtiments, les églises, les chapelles, etc. Et donc là c'est plus Mathieu qui va intervenir sur l'aspect guide et précision du patrimoine.
Okay. Il n'y a pas de doublon dans l'équipe, on est tous complémentaires, donc vraiment personne ne fait la même chose. Donc ça c'est vraiment l'idéal, on se marche pas dessus. Non mais c'est vrai. Donc du coup on est tous complémentaires, donc chacun ajoute sa pierre à l'édifice.
Bah, merci beaucoup Olivier Faudet et Mathieu Belusson d'être venus dans la Mystery Machine pour nous parler de randonnée et du patrimoine historique de Vire.